Je vais maintenant vous présenter notre conférencier de ce soir, donc Philippe Weckel. Philippe Weckel est juriste, il est agrégé de droit public, il est professeur de droit international à l'Université de Nice, il est membre du conseil d'administration de la Société française pour le droit international. Philippe Weckel est spécialiste de droit international, il a travaillé sur la jurisprudence internationale, sur les droits de l'homme, sur le problème de l'emploi de la force, des guerres et de la question du statut des prisonniers. Philippe Weckel a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées et il est l'auteur de nombreuses publications dans divers domaines du droit international. Par exemple, l'emploi de la force contre la Yougoslavie ou la charte fissurée à la Revue générale de droit international public en 2000, ou bien encore l'usage déraisonnable de la force à la Revue générale de droit international public en 2003. Il est membre du comité de rédaction de la Revue générale de droit international public et directeur de la chronique de jurisprudence internationale de la revue. Je vais maintenant donc lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un échange avec le public d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Merci Madame. Le sujet qui nous a été proposé ce soir est, je crois, un sujet audacieux, redoutable. Il est audacieux parce que nous nous engageons dans un domaine qui est tout à fait neuf. Je crois que ce sujet de conférence n'aurait pas pu être imaginé il y a seulement 4 ou 5 ans. Nous sommes donc dans un sujet qui est directement en relation avec l'actualité internationale et, bien sûr, le fait de s'aventurer ainsi sur des terrains largement vierges sur le plan de la réflexion est évidemment assez périlleux. Redoutable aussi parce que cela invite le juriste internationaliste à non pas traiter sa matière, mais de sa matière, en quelque sorte, comme un médecin qui ne fait pas de la médecine, mais parle de la médecine. Il s'agit de montrer quelles sont les évolutions d'une discipline qui est évidemment tout à fait confronté à l'évolution actuelle de la société internationale, voire même de l'humanité. Alors je crois qu'il faut remercier les organisateurs pour la manière dont ils ont envisagé la mondialisation. En effet, derrière ce titre, la mondialisation du droit, il y a une orientation qui n'est pas celle que les juristes entrevoient habituellement. Je sais par exemple que dans le cadre des conférences de l'Université de tous les savoirs, il y a déjà eu une conférence sur un sujet qui semble extrêmement proche à première vue, une conférence qui portait sur la mondialisation et le droit. Magnifique conférence qui a été présentée par ma collègue, Madame Delmas Marty. Or, ce qui justifie que l'Université de tous les savoirs reprenne apparemment ce thème, c'est que, justement, au-delà d'une certaine similitude des mots, le sens des mots est ici profondément différent. Parler de la mondialisation et du droit, cela veut dire que l'on va s'interroger sur l'incidence d'un phénomène essentiellement économique, la mondialisation perçue comme un changement fondamental dans l'organisation des échanges économiques. Donc il s'agit d'ailleurs pour l'essentiel d'une problématique d'économie politique. Donc voilà l'approche qui a été pour la première fois abordée dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. On peut dire aussi que l'on peut envisager un droit de la mondialisation comme étant la réaction à ce phénomène de nature économique. L'intérêt, je crois, de cette série de nouvelles conférences est de mettre l'accent sur le caractère pluriel du phénomène de la mondialisation. Toutes les disciplines où la plupart d'entre elles sont affectées par un phénomène de mondialisation. Alors le droit aussi se mondialise. Et je donnerai immédiatement un exemple que vous pouvez avoir très facilement à l'esprit, qui est celui de la création d'une cour pénale internationale, d'une juridiction pénale permanente. Voilà un changement fondamental, un changement qui se situe au niveau mondial et qui a une portée essentiellement juridique. C'est une contribution importante qu'apportent là les États au règne du droit, à une conception mondiale du respect du droit. Voilà un événement qui s'inscrit tout à fait dans cette problématique de la mondialisation du droit. Ainsi, le droit se mondialise. Pourtant, à vrai dire, il existe, et puis depuis fort longtemps, un droit mondial. Le droit mondial n'est pas une nouveauté. Je prendrai un exemple concret. Si vous souhaitez envoyer un courrier dans une île du Pacifique, à Nauru, comment allez-vous le faire ? La solution la plus rationnelle, la plus raisonnable, est évidemment de vous rendre dans votre bureau de poste le plus proche de votre domicile parisien. Et vous ne doutez pas un instant que cette lettre arrivera, je ne sais pas quand, mais arrivera naturellement à bon port. Et pourtant, pour que cette opération puisse se réaliser, il aura fallu mettre 700 000 bureaux de poste, 6 millions de postiers dans 190 pays en réseau. Et pour cela, on aura d'abord signé un traité, la Convention de Berne, très ancienne, 1874. On aura créé une organisation internationale appelée l'Union postale universelle. Il y a ainsi une réglementation mondiale qui va organiser ce véritable service public international. Mais cette organisation qui va ainsi assumer une tâche d'intérêt général pour l'ensemble de l'humanité, cette organisation, son droit, la réglementation qu'elle édicte ne flotte pas en l'air. Il y a bien entendu des règles fondamentales qui assurent la validité de cette convention, détermine ses effets. C'est ce que l'on appelle le droit international public. Un droit qui, par nature, est un droit mondial, puisqu'il comporte un ensemble de règles qui s'appliquent à l'ensemble des États formant ce que l'on appelle la communauté internationale, ou la communauté internationale des États. Ce droit est aussi ancien en réalité que les États eux-mêmes, parce que, naturellement, l'État étant essentiellement un phénomène juridique, les États développent entre eux des relations juridiques. Et ces relations ne peuvent évidemment pas dépendre d'un droit particulier. Il y a donc un droit international public qui est un droit par nature mondial, et je dirais même universel. Et la particularité des universitaires qui sont spécialisés dans ce domaine, la particularité de cette catégorie-là de juristes est qu'ils peuvent enseigner leur discipline dans tous les pays de la planète. Je peux enseigner ma matière sans changer une ligne à mon enseignement. Subsiste bien entendu le problème de la langue, mais pour le reste, la matière est universelle. Et en cela, bien entendu, nous sommes fondamentalement différents des juristes de droit interne dont l'enseignement est profondément marqué par la relativité spatiale du droit. Le droit est pour l'essentiel un phénomène enfermé dans le cadre dessiné par les frontières, le territoire de l'État et son ordre juridique interne. Cette relativité est gommée, nous sommes, nous, juristes internationalistes, des citoyens du monde. Alors, dans ce contexte-là, comment peut-on parler de mondialisation du droit ? Il y a un droit mondial, et bien entendu, ce droit mondial nous est indispensable pour envisager que se crée progressivement une société humaine globale reconnaissant le règne du droit. Alors, nous n'allons pas nous engager sur le chemin de l'utopie. Et je ne parlerai que de la réalité, de la progression, d'une progression qui vraisemblablement ne sera jamais achevée. Cette progression se manifeste de deux manières. D'une part, nous pouvons constater que depuis le début de ce siècle, et peut-être plutôt depuis la moitié des années 90, le discours et les actes des États ont changé, leur attitude à l'égard du droit s'est profondément modifiée. Bien entendu, le changement profond des relations internationales au cours de cette décennie a une incidence sur la perception du droit international par les acteurs de la société internationale. Il y a donc un changement de perception. Le droit est devenu un outil essentiel de la gouvernance mondiale, de cette volonté que l'on manifeste aujourd'hui dans les politiques étrangères d'un grand nombre de pays, et notamment les pays européens, de rationaliser leur action en agissant de manière collective et surtout d'essayer d'améliorer ce très grand désordre international qui est la caractéristique première de notre monde. C'est donc un aspect aujourd'hui fondamental de la bonne gouvernance mondiale. Et puis il y a un autre aspect qui est la conséquence au fond de ce développement important du rôle, de la place, de la perception du droit international. On s'aperçoit qu'il y a un phénomène d'universalisation du droit, universalisation des valeurs acceptées par les États, mais aussi universalisation des institutions judiciaires internationales. Nous allons commencer par cette première problématique, qui est celle du règne du droit et de la gouvernance globale. Je l'ai déjà dit, on peut constater qu'il y a un changement d'attitude important de la part de la diplomatie internationale et des gouvernants, un changement dans les discours, évidemment. Lorsque vous lisez les discours du ministre français des Affaires étrangères, il n'y a pas un seul discours presque dans lequel ne figure pas la référence première à la nécessité de respecter le droit international, le mot droit international étant d'ailleurs généralement associé à la morale. Il y a donc évidemment dans cette volonté de s'asseoir sur les règles du droit international aussi une intention de moralisation du comportement des États. Comment ce changement d'attitude s'est-il traduit ? S'est-il traduit dans les actes, puisque c'est d'abord ce qui va nous intéresser ? Il s'est traduit d'abord, peut-on dire, par un certain nombre de décisions du législateur international. Il y a, en effet, un certain nombre d'instruments fondamentaux qui ont été mis en place dans les années 90 et qui traduisent ce nouveau rapport, cette nouvelle perception du droit international. Et vous allez voir, cela correspond dans une très large mesure à cette période d'après la fin des années 80, d'après la disparition du monde bipolaire que nous connaissions jusqu'alors. Quels ont été ces changements ? Eh bien, on citera d'abord en 1994 le traité de Marrakech et la création de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, quelle est la portée essentielle de ce changement ? C'est la création de l'organe de règlement des différends de l'OMC. En effet, la libéralisation des échanges n'est évidemment pas une innovation du traité de Marrakech. Le GATT, l'ancien GATT, avait effectivement les mêmes objectifs Et le changement fondamental ne se situe donc pas à ce niveau. Par contre, on a voulu renforcer l'effectivité des règles, assurer une meilleure égalité des États face à l'application des engagements, faire en sorte que les États aient la possibilité d'échapper à un simple rapport de force diplomatique, à l'unilatéralisme, et que par conséquent, les contre-mesures, moyens unilatérales d'obtenir justice, les contre-mesures soient enfermées dans une procédure contentieuse, avec des experts qui joueront le rôle d'arbitre, et la possibilité, en fin de parcours également, de limiter la possibilité de prendre des contre-mesures, c'est-à-dire que les contre-mesures ne doivent pas excéder le préjudice commercial que subit l'État victime d'une violation de ses règles. Voilà un événement qui est important et qui aura incontestablement, très fortement, marqué cette décennie. Autre exemple qui paraît tout à fait évident, c'est la création dans la première moitié de cette décennie des deux tribunaux pénaux internationaux en 93 et ensuite en 94 s'agissant d'une part de l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et ensuite le tribunal pénal pour le Rwanda. Deux expériences de tribunaux pénaux internationaux qui vont juger des violations massives des droits de l'homme dans deux pays qui ont été bouleversés par un drame humain considérable. C'est une nouveauté pour tous ceux qui ont vécu d'assez près ces événements. Nous étions, je m'en souviens, tout à fait incrédules lorsque le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a été créé. Événement majeur, d'autant plus que c'est par une décision du Conseil de sécurité, par une décision d'un organe qui représente véritablement l'action diplomatique au plus haut niveau. C'est la décision de cet organe qui va donner naissance à cette juridiction dont la mission est, elle aussi, de lutter contre l'impunité des violations dans le cadre de conflits armés. Voilà un événement important de cette période des années 90, une décision qui marque bien cette volonté d'assurer l'effectivité du droit international. Et dans la foulée, en 1998, la Convention de Rome qui va instituer la Cour pénale internationale. Cette fois, on ne crée pas un tribunal pour une crise déterminée, ce sera une institution qui devrait rester en fonction pour les siècles à venir et assurer ainsi une meilleure application des règles du droit humanitaire. Jusqu'à présent, le droit humanitaire, très ancien droit du XIXe siècle, souffrait de cette incapacité à assurer la sanction effective de ces règles. Les criminels de guerre, surtout dans les situations de crise interne, échappaient très largement à leurs juges. Potentiellement, ils étaient soumis à la loi internationale. Ce sont des criminels au regard du droit des gens, mais ils ont manqué jusqu'à présent des mécanismes permettant d'assurer la répression. Donc un changement d'attitude venant du législateur international. Mais on constate aussi un changement d'attitude du justiciable. Cette fois, nous allons nous intéresser à la demande de justice telle qu'elle transparaît dans le comportement notamment des États. De manière assez spectaculaire, puisque c'est en quelques mois ou deux, trois ans, de manière spectaculaire donc, le contentieux international a augmenté. Nous pouvons prendre comme exemple le cas de la Cour internationale de justice, La Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal, l'organe principal de l'Organisation des Nations Unies. Aux côtés de l'Assemblée générale, aux côtés du Conseil de sécurité, il y a un organe judiciaire. Cet organe judiciaire a principalement pour fonction de régler les différends surgissant entre deux États et surtout deux États membres. Alors cette institution est très ancienne, il y avait d'ailleurs une devancière au moment de la Société des Nations, la Cour permanente de justice internationale remplissait les mêmes fonctions et elle a eu un contentieux tout de même abondant. La Cour internationale de justice n'a jamais cessé d'avoir une activité. Mais dans les années 90, et brutalement, le nombre d'affaires inscrites au rôle de la Cour s'est accru. C'est ainsi que dans les années 70, on avait régulièrement, bon an, mal an, une affaire par an inscrite au rôle. À partir de 1998-99, la croissance a été telle que nous nous maintenons aujourd'hui à 24 affaires au rôle. Tout cela, bien entendu, peut vous sembler un nombre limité face, par exemple, aux 900 requêtes qui sont aujourd'hui introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça n'est pas le même type de contentieux. Il s'agit de grosses affaires plus considérables dans leur volume que ne le sont, par exemple, les affaires constitutionnelles portées devant le Conseil constitutionnel français. Donc le volume fait que, naturellement, cette Cour ne serait pas à même de traiter un volume contentieux comparable à celui des juridictions internes. Quoi qu'il en soit, cette transformation est spectaculaire, passée de 1 à 24. Augmentation donc au niveau de la Cour internationale de justice. J'évoquais l'organe de règlement de l'OMC, mais depuis 1995, il y a eu près de 300 plaintes portées devant l'OMC, 295. Quant à l'activité des tribunaux ad hoc, des tribunaux pénaux internationaux, vous savez sans doute que l'activité est importante. Il y a un grand nombre de personnes qui attendent leur procès, ils sont à peu près 50 pour chacun des deux tribunaux, et il y a jusqu'à présent 37 personnes qui ont été jugées par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et près d'une quinzaine pour le tribunal pour le Rwanda, le tribunal d'Arusha. Tout cela est tout de même un nombre conséquent. Il faut songer à la longueur, à la difficulté des procès à ce niveau-là, penser à la durée d'un gros procès d'assises. On s'aperçoit que l'activité a tout de même été tout à fait conséquente. Donc il y a une croissance importante du contentieux international. On voit que l'on a créé dans cette décennie un certain nombre de nouveaux mécanismes contentieux qui aujourd'hui couvrent des pans entiers du droit international. Il y a une juridictionnalisation d'une part importante du droit international. C'est ainsi, nous savons qu'avec l'OMC, nous couvrons au niveau mondial le droit des échanges. Mais ces mécanismes contentieux, nous les retrouvons aussi au niveau régional. Par exemple, l'Association de libre-échange nord-américaine a aussi des mécanismes contentieux. Notamment, les investisseurs peuvent, par voie d'arbitrage, obtenir justice, un arbitrage obligatoire. Autres domaines qui sont aujourd'hui couverts, bien entendu, c'est le droit international pénal, avec notamment cette magnifique perspective que nous ouvre aujourd'hui la création de la Cour pénale internationale. Enfin, on citera la mise en place, encore dans les années 90, du Tribunal international du droit de la mer, qui a son siège à Hambourg, et qui lui couvre aussi un vaste domaine du droit international, le droit de la mer. Avec des aspects très importants comme la protection de l'environnement marin ou les relations entre les États côtiers et les États pêcheurs. C'est là encore une juridiction qui se met en place, dont l'activité commence, qui a maintenant une bonne dizaine d'affaires traitées et qui est très prometteuse en ce qui concerne son développement futur. Cette juridictionnalisation à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui est un phénomène durable a bien entendu connu des antécédents. Ainsi, au niveau européen, nous ne partons pas de rien, puisque dans les années 70, nous avons assisté à l'explosion de l'activité de la Cour de justice des communautés, puis dans les années 80, à la même explosion s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg. Ainsi, nous entrons progressivement dans un monde où la justice internationale devient un paramètre important des relations internationales. Vous observerez d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre elles s'occupent non pas de rapports interétatiques, mais des individus. Les individus sont partis dans un certain nombre de ces contentieux, partis devant les juridictions des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, mais également... On doit s'en souvenir parce que c'est une juridiction qui connaît aujourd'hui une très forte croissance, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui, à partir de 1999, a connu un véritable lancement de son activité. Donc, ces juridictions-là traitent de contentieux entre des individus et des États. Nous savons, bien sûr, qu'à travers les juridictions pénales internationales, ce sont des individus aussi qui sont justiciables, qui apparaissent devant des juges qui représentent la communauté internationale des États dans son ensemble. Donc voilà cette transformation, ce phénomène de juridictionnalisation qui est peut-être l'aspect le plus visible, le plus transparent, d'un phénomène plus vaste de juridicisation. La juridicisation en dehors de la justice internationale se manifeste par exemple dans l'activité du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité s'est considérablement renforcé son action au cours des années 90. Or, il s'est fait l'instrument de la mise en œuvre du droit international de diverses manières, et dont notamment en créant les deux juridictions pénales que j'évoquais tout à l'heure. Voilà un aspect aussi de la juridicisation. Lorsqu'on regarde le comportement par région, le comportement des différents États, on voit que aujourd'hui, les États qui étaient réticents à l'égard notamment de la justice internationale ont changé d'attitude. Notamment, les États africains sont de très forts demandeurs du contentieux international. De très nombreuses affaires trouvent leur origine dans une saisine d'États africains. C'est ainsi que le Cameroun et le Nigeria ont bénéficié récemment d'un arrêt important qui a réglé un problème crucial qui était celui des frontières entre ces deux États dans le contexte d'une rivalité en réalité portant sur l'appropriation de ressources pétrolières. Pour ceux qui suivent un peu l'activité internationale, ils savent combien le golfe de Guinée est aujourd'hui une zone géopolitiquement importante. Eh bien, on a souhaité, les États ont souhaité ici, ou du moins le Cameroun, a souhaité obtenir par la justice le règlement de cette question. Voilà un exemple d'une attitude d'un État africain. Tout récemment encore, le Congo-Brazzaville a saisi la Cour internationale de justice au sujet de poursuites qui sont effectuées en France contre un certain nombre de dirigeants congolais, avec une certaine mise en cause, implicite au moins, du président de la République pour un massacre qui aurait été commis à l'occasion de la guerre civile. Voilà aussi un exemple de cette volonté d'aller devant la justice internationale. Mais ce ne sont pas seulement les États africains. Nous assistons aujourd'hui des attitudes favorables à la justice internationale qui peuvent paraître tout à fait surprenantes. Récemment, la Malaisie et l'Indonésie ont ainsi réglé un petit différend relatif à deux petites îles, et notamment l'île de Sipadan, que certains d'entre vous peuvent connaître s'ils sont amateurs de plongée sous-marine. Donc une petite île qui jusqu'à présent ne présentait pas un intérêt considérable et que les États revendiquaient. Eh bien, ces deux États asiatiques ont décidé de régler leurs différends par voie de justice internationale. On citera aussi l'attitude surprenante, finalement, si on se place dans l'évolution générale des relations internationales, de la Russie, qui, il y a quelques mois, dans l'affaire du Volga, a saisi le Tribunal international de la mer. Donc nous voyons des changements de comportement qui sont importants. Comment expliquer ce changement d'attitude? Bien entendu, il faut mettre cela en relation avec l'évolution générale des relations internationales. Dans les années 70, dans les années 80, le droit international jouait un rôle finalement limité. On le rencontrait beaucoup dans les discours, c'était un moyen de communiquer, c'était un élément du discours, c'était un langage commun, mais l'effectivité du droit international ne semblait pas être la préoccupation majeure des États dans leur ensemble. Bien plus, le droit apparaissait plutôt comme un enjeu politique. Il s'agissait essentiellement de faire valoir sur le plan international sa propre conception. Le droit international était un enjeu d'ordre politique. Ainsi, a-t-on pendant des années avant tout voulu obtenir la consécration par le droit international d'un certain nombre de normes. C'était cela que l'on voulait. On voulait obtenir la reconnaissance mondiale, si possible, de certaines valeurs liées à son propre système. Ainsi, y avait-il une réticence en réalité à l'acceptation de l'effectivité du droit international, réticence très nette de la part du bloc soviétique. Dans ce contexte, on estimait que les relations entre les deux mondes opposés, les relations ne pouvaient pas se fonder sur un droit commun, c'était en réalité un droit parallèle plutôt qu'un droit véritablement universel. Les États du tiers-monde, les États issus de la décolonisation ont commencé leur nouvelle existence et l'affirmation de leur indépendance par la contestation du droit international. Et ils ont souhaité utiliser la loi du nombre, leur majorité, pour transformer ce droit. Là encore, il s'agit d'une préoccupation essentiellement d'ordre politique. Le droit international apparaissait essentiellement comme un enjeu de pouvoir. Avec les années 90, c'est au contraire l'idée d'effectivité du droit international qui va être mise en avant dans un contexte désormais très différent, dans lequel on ne cherche plus l'affirmation de nouvelles valeurs, mais où l'on veut avant tout que ce droit soit effectif. Et c'est dans ce cadre-là, bien entendu, qu'il faut situer l'explosion du contentieux international et la juridictionnalisation du droit international. Voilà, pour ces causes, elles vont entraîner un certain nombre de conséquences. Et conséquences, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, à l'évidence, la justice, le développement de la justice internationale va modifier le fonctionnement de la société internationale. Les juridictions internationales sont aujourd'hui, et je vais essayer de vous le démontrer par quelques exemples concrets, des acteurs des relations internationales. Ainsi, peut-on constater que les juges internationaux jouent un rôle important en ce qui concerne tout d'abord la formation du droit. Nous verrons ensuite que ces juges jouent un rôle important en ce qui concerne le règlement des conflits, et notamment des conflits politiques entre les États. Nous les retrouverons au cœur des principales crises internationales aujourd'hui. Et puis enfin, nous verrons que finalement, les juges internationaux sont également sollicités s'agissant de problèmes de société fondamentaux, comme par exemple la peine de mort, dont je développerai l'exemple dans quelques instants. Donc commençons par le premier impact, qui est la contribution du juge à la formation du droit. Dès lors que les États augmentent leur demande de justice, qu'ils accroissent la confiance qu'ils accordent aux juges internationaux, bien entendu, le juge international se sent suffisamment conforté pour affirmer son rôle, et notamment son rôle dans le développement du droit international. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire que j'évoquais tout à l'heure, l'affaire opposant le Congo-Brazzaville à la France, l'affaire dite certaines procédures pénales conduites en France contre des dirigeants congolais, eh bien dans cette affaire, le Congo ne pouvait pas justifier d'un titre de compétence de la Cour mondiale, ce qui signifie que la Cour mondiale, normalement, ne pouvait pas être saisi de cette affaire. Et curieusement, la France a accepté que le différend soit porté devant cette juridiction. C'est un comportement tout à fait inédit. Vous n'êtes pas obligé d'être jugé, éventuellement de perdre, eh bien, vous allez tout naturellement vous abstenir de vous laisser entraîner. Eh bien non, la France a décidé d'accepter, et donc a accepté que le problème soit tranché par la juridiction. Et quel problème ? Eh bien, il s'agit d'un problème dont vous avez tous entendu déjà parler, c'est le problème de la compétence universelle des juridictions internes. Est-ce que les juridictions internes peuvent avoir une compétence qui s'exerce pour des faits qui ont été commis à l'étranger, contre des personnes, des victimes qui n'ont pas la nationalité du pays, alors que les auteurs ont également une nationalité d'un pays tiers ? Est-ce que, éventuellement, le juge national peut être saisi alors que le criminel ne se trouve même pas sur le territoire. Voilà un problème très important qui a été mis en avant par la législation belge, reconnaissant de manière très large la compétence universelle des tribunaux. Eh bien, la France souhaite qu'il y ait un arbitrage de cette question de principe par la Cour mondiale. En réalité, les États sont aujourd'hui beaucoup trop divisés pour s'entendre. Ils ne pourraient pas, par voie d'accord international, régler ce problème. Alors on le confie au juge. On s'attend à ce que le juge tranche le problème. Et ainsi, par voie d'interprétation du droit, on attend qu'il supplée à l'insuffisance du législateur international. Et on s'aperçoit qu'effectivement, notamment la Cour mondiale a, ces dernières années, joué son rôle, apporté sa pierre à l'édifice du droit. Ainsi, dans une affaire récente, l'affaire Qatar, Bahreïn, une affaire opposant ces deux États au sujet de l'appropriation d'un certain nombre d'îles et également la délimitation de leurs zones maritimes, bien entendu, c'est un enjeu pétrolier important. Mais dans cette affaire, il y avait un problème qui portait sur le régime juridique attribué à certaines formations maritimes. D'abord, les toutes petites îles. Est-ce qu'on peut considérer comme une île un simple petit caillou ou une toute petite bande de sable ? Est-ce qu'à partir du moment où une bande de sable affleure la surface et reste en permanence hors de l'eau, un mètre carré de sable sortant au milieu des flots, est-ce que c'est une île ? Est-ce que c'est une île? La question n'avait pas été tranchée par le législateur international, le législateur entre guillemets, c'est-à-dire les États réunis pour élaborer la Convention sur le droit de la mer, la Convention de 1982. Les États n'avaient pas réglé ce problème. Ils n'avaient pas réglé non plus tout à fait la question, le statut des hauts fonds découvrants, c'est-à-dire des éminences qui seront recouvertes à marée haute, mais qui apparaîtront à marée basse. Quel est le régime qu'on leur appliquera? S'agit-il encore d'îles? Faut-il trouver un régime intermédiaire? Eh bien, ces questions-là ont été tranchées par la Cour internationale de justice, en l'absence de décisions prises initialement par les États eux-mêmes. Donc, vous voyez, il y a une volonté de s'appuyer finalement sur le juge international pour contribuer au développement du droit international. À côté de la Cour internationale de justice, les juridictions spécialisées affirment aussi leur rôle en ce qui concerne le développement du droit international. Et elles se sentent investies d'un rôle particulier, peut-être, le rôle de jouer, d'être un aiguillon, de pousser la Cour internationale de justice, notamment au progrès du droit. Et c'est ainsi qu'en 1999, dans une affaire importante que j'aurai l'occasion encore d'évoquer en quelques mots, l'affaire Lagrand, qui portait sur la peine de mort aux États-Unis, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est prononcée par voie d'avis quelques mois avant que n'intervienne la Cour internationale de justice. Elle a ainsi, non pas peut-être forcé la main de la Cour internationale de justice, mais en tout cas montré la voie. Et la Cour internationale de justice a suivi, affirmant ainsi que les droits du détenu étranger à bénéficier de la protection consulaire, la possibilité de s'adresser à l'agent consulaire, constituent un droit individuel. Les individus ont le droit subjectif de bénéficier de cette protection consulaire. C'est un progrès du droit important qui a été réalisé grâce à ce petit coup de pouce donné par une juridiction régionale en direction précisément de la Cour internationale de justice. Donc, contribution au progrès du droit. Je vais maintenant évoquer l'incidence ou l'implication de ces juridictions dans les conflits politiques. Il faut savoir en effet que les plus grandes crises politiques actuelles impliquent d'une manière ou d'une autre les juridictions internationales. C'est ainsi que, s'agissant de la Yougoslavie, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie joue un rôle. Il a joué un rôle considérable dans le travail de pacification mené par la communauté internationale en Yougoslavie. Grâce à l'espérance de justice qu'il a donnée aux victimes, il a permis de contrôler la situation. La contribution à la pacification n'est pas négligeable. Il est intervenu d'ailleurs un certain nombre de fois. Je pense en particulier à la mise en accusation de M. Milosevic, qui a empêché tout processus destiné à garantir une immunité à M. Milosevic. Les diplomates ont été radicalement empêchés de s'engager dans cette voie grâce à la réaction du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Voilà une incidence politique. Mais le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie n'est pas le seul à être impliqué là-dedans, dans ce drame yougoslave. La Cour internationale de justice a été saisie notamment par la Bosnie-Herzégovine et devrait s'interroger sur la responsabilité de la Yougoslavie, responsabilité au regard de la Convention sur le génocide. Vous imaginez bien que ce procès-là sera un procès majeur, comme l'est aujourd'hui le procès Milosevic devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Autre exemple, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, à plusieurs reprises ces dernières années, la Cour internationale de justice a été amenée, et le sera encore, amenée à intervenir. Et parfois, elle est intervenue en relation très directe avec l'activité diplomatique. Je pense en particulier à une ordonnance prise en juillet 2002 par la Cour internationale de justice dans un différend opposant le Rwanda au Congo belge, à la RDC, la République démocratique du Congo. Dans cette affaire-là, la Cour internationale de justice, par la formulation de sa décision, a indiqué très clairement la voie à suivre pour le règlement politique. Et l'accord de Pretoria, qui sera conclu à la fin du mois d'août 2002, est la conséquence, ou peut-être liée, en partie au moins, à la décision prise et à la motivation de cette décision prise par la Cour internationale de justice. Là, on voit que les juridictions internationales sont en prise directe avec l'activité diplomatique internationale et jouent leur rôle, participent donc en tant qu'acteurs. J'évoquais tout à l'heure l'affaire Cameroun-Nigeria. Le Nigeria a perdu dans cette affaire. Eh bien, immédiatement après, il y a eu une intense activité diplomatique, associant d'ailleurs aussi le président de la Cour internationale de justice, activité diplomatique menée par le secrétaire général des Nations Unies, pour faire accepter cet arrêt. Et tout cela a conduit effectivement à une amélioration et à des engagements qui ont été pris par le Nigeria et aussi par le Cameroun d'assurer la mise en œuvre progressive de cet arrêt. On le voit, le juge international n'est sans doute pas un juge politique, mais il est directement en contact avec la politique internationale et je dirais avec la diplomatie. Il est un élément fondamental de la diplomatie internationale. Il n'y a d'ailleurs pas de rupture entre l'activité de juger et la diplomatie. La diplomatie a précédé le différend et la diplomatie va succéder au différend. Ainsi, le juge est-il avant tout l'auxiliaire de la diplomatie internationale lorsqu'il s'agit de ce contentieux classique, le contentieux interétatique. S'agissant des juridictions régionales, même les juridictions spécialisées dans la protection des droits de l'homme, l'incidence politique de leur action est également très importante. Songeons aux problèmes tchétchènes dont est actuellement saisie la Cour européenne des droits de l'homme. Songeons aux problèmes nombreux de violations des droits de l'homme portés devant la Cour internationale de justice et qui concernent la Turquie. Songeons à la situation de Chypre qui a été portée à plusieurs reprises devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là aussi, bien sûr, c'est le juge est directement impliqué dans des problèmes politiques majeurs. Troisième aspect que je voudrais évoquer au niveau de ces incidences de la juridictionnalisation. Troisième incidence, ce sont les choix de société. De plus en plus, les problèmes importants de notre société mondialisée émergent au niveau international et sont portés devant les juridictions internationales. Le problème de la peine de mort, par exemple, la responsabilité pénale du chef de l'État, les questions de crimes sexuels dont je parlerai dans un instant tout à l'heure. Mais l'exemple peut-être le plus simple, le plus topique, est celui de la peine de mort. La peine de mort a en effet ces dernières années été portée devant différentes juridictions internationales. Et pour l'essentiel, il s'agit des pratiques américaines, la pratique des États-Unis qui sont ainsi contestées devant ces juridictions. Déjà en 1989, avec un arrêt important de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Söring, on s'était engagé dans cette direction en admettant qu'une détention prolongée dans les couloirs de la mort pouvait constituer un traitement inhumain et était visée ainsi l'extradition vers les États-Unis qui exposerait indirectement la personne à subir un traitement inhumain. Voilà pour la Cour européenne des droits de l'homme, mais plus récemment, le problème a été porté à la fois devant la Cour internationale de justice et devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est ainsi que l'Allemagne a obtenu la condamnation des États-Unis dans l'affaire Lagrand, deux frères allemands qui ont été exécutés aux États-Unis. La Cour internationale de justice a constaté que les droits de nature procédurale en réalité, des accusés n'ont pas été, des condamnés n'ont pas été respectés. En l'occurrence, il s'agissait du droit à l'assistance consulaire qui devrait bénéficier à tout détenu étranger. Ce n'est donc pas la peine de mort en tant que telle qui a été contestée devant la Cour internationale de justice. C'est par un biais que le problème a été abordé. Mais bien entendu, c'est le contexte général de la violation des droits dans les procès aux États-Unis qui est ainsi mis en avant. Et actuellement, nous avons un nouveau procès qui est porté cette fois-ci devant la Cour internationale de justice par le Mexique, où il y a pas moins d'une quarantaine de personnes mexicaines qui attendent dans les couloirs de la mort. Là aussi, cette affaire, bien entendu, aura une répercussion importante sur la politique des États-Unis, la politique judiciaire des États-Unis, même si l'opinion publique n'en est pas spécialement informée. C'est une pression en faveur d'une amélioration du fonctionnement du système judiciaire américain et le progrès naturellement résultera de cette pression internationale. Voilà un exemple de ces questions qui émergent sur le plan international. Voilà pour cette implication du droit, ce règne du droit que l'on introduit progressivement au niveau de la gouvernance mondiale. J'aborderai maintenant, pendant le temps qu'il me reste, le phénomène de l'universalisation du droit et qui, heureusement, me retiendra beaucoup moins longtemps. Cette universalisation du droit se traduit aujourd'hui par le renforcement, le développement d'un certain nombre de règles fondamentales universellement acceptées. Avant les années 90, il était hors de question de tenir un tel discours. Même si la Cour internationale de justice, dans sa jurisprudence antérieure, avait affirmé que les droits fondamentaux de la personne humaine avaient une nature coutumière, relevaient du droit international général et donc par conséquent étaient situés au rang de règles universelles, il n'est pas certain que la généralité des pays dans le monde ait accepté à cette époque-là une telle position. Aujourd'hui, les choses ont changé et on peut tranquillement affirmer qu'aujourd'hui, il y a un bloc de règles fondamentales universelles, règles universelles incontestées et en réalité incontestables. C'est ainsi que les règles essentielles du droit international humanitaire, ce droit humanitaire qui engage, dont l'application engage la responsabilité des individus, quels qu'ils soient, simples militaires ou chefs d'État. Donc, les règles fondamentales de ce droit sont aujourd'hui considérées comme des règles fondamentales de portée universelle. On peut parler, tenir le même discours s'agissant des principes des droits internationaux, des droits de l'homme. C'est ainsi que le pacte des droits civils et politiques contient aujourd'hui, peut-on dire, un grand nombre, ou explicite un grand nombre de règles qui sont des règles de caractère universel, et notamment le droit à la vie ou à la protection de l'intégrité physique. Un changement donc sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui s'est traduit effectivement aussi par des développements jurisprudentiels tout au long de ces dernières années dans les différentes juridictions internationales. Mais je voudrais surtout insister sur le développement d'un véritable système de justice internationale. Et c'est là peut-être que l'on comprend mieux ce phénomène de mondialisation du droit. Nous avons vu qu'il existe une pluralité de juridictions. Ces juridictions ne sont en rien hiérarchisées. On peut dire que la Cour internationale de justice bénéficie d'une autorité particulière. C'est la Cour mondiale, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Mais sa jurisprudence n'a en tant que telle aucune autorité juridique sur les autres juridictions. Et pourtant, on constate qu'à une exception près, peut-être, toutes les juridictions s'alignent sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Il y a une indépendance de ces différentes juridictions, mais en même temps, une très forte volonté d'assurer la cohésion de la pratique du droit international, et au contraire, les juridictions s'appuient l'une sur l'autre. Et on assiste aujourd'hui à un phénomène qui était, il y a 3-4 ans, totalement inimaginable. Ces juridictions, en principe autonomes, et qui, comme toute institution, devraient logiquement se comporter d'une manière qui devrait valoriser leur autonomie. Elles devraient, peut-on penser, mettre surtout en avant leur indépendance? Eh bien non, le comportement est assez différent. Il y a aujourd'hui un regard que portent mutuellement les juridictions l'une sur l'autre, un véritable dialogue indirect qui s'est institué. Les juridictions s'observent, suivent leur activité, et cela dans un climat général d'émulation qui contribue de manière formidable au progrès du droit. C'est une situation de concurrence des instances, mais de concurrence tout à fait positive. C'est ainsi que de trimestre en trimestre, je m'aperçois que une position adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme va avoir des répercussions sur celle de la Cour internationale de justice, que la Cour internationale de justice a elle-même introduit, provoque une modification de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a aujourd'hui, vous le voyez, un contact indirect qui s'est établi, un dialogue, un regard que se portent mutuellement ces différentes juridictions, et tout cela contribue au progrès du droit. Ainsi se met en place progressivement un système juridictionnel international. Quant à ce qu'il contient, cela aussi est particulièrement intéressant, et je prendrai l'exemple des juridictions pénales internationales. L'innovation majeure a été ici de mettre ensemble à la fois des juristes internationalistes, spécialistes de droit de l'homme ou de droit humanitaire, et puis des spécialistes de droit pénal appartenant à des cultures juridiques différentes. Il y a de très grandes différences entre l'approche du droit pénal que vous connaissez à travers les feuilletons américains et celle de la réalité judiciaire du système français. Ce sont des systèmes tout à fait différents. Or là, on va réunir des juristes qui appartiennent à ces deux cultures, et ils vont être obligés, non pas seulement de cohabiter, mais de réaliser la synthèse de leur culture. Et cela fait que ces juridictions internationales, et en particulier ces juridictions pénales internationales, sont de véritables laboratoires du droit. Ici, nous préparons le droit pénal de l'avenir. Ce sont des expériences auxquelles nous nous livrons, et des expériences qui vont faire émerger un droit plus avancé. C'est aussi la substance du droit et du droit pénal qui est modifiée. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous disposons d'une définition universelle du viol. Voilà un apport substantiel des deux tribunaux ad hoc, et notamment du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Une définition universelle du viol. Élaborée comment ? Élaborée à travers une comparaison de la pratique des systèmes juridiques nationaux. Donc on part d'une analyse comparatiste, et l'on va en faire émerger une interprétation d'une règle du droit international. C'est donc dans la pratique nationale que l'on va puiser la nourriture, les éléments qui vont permettre l'émergence de cette règle et de sa définition, puisqu'il s'agissait ici d'un problème d'interprétation du droit. Mais ainsi, si au moment de l'élaboration du code pénal français, de la réforme du code pénal, nous avions disposé d'une définition universelle du viol, motivée, développée, appuyée en réalité par tout le travail de réflexion qui antérieurement avait été mené au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, je crois que le travail du législateur en France aurait été facilité. C'est ainsi que ces juridictions internationales ont un rôle à jouer, un rôle de promotion du droit, un rôle d'avancement du droit. Il ne faut pas imaginer que ces juridictions internationales vont promouvoir un droit qui serait un droit restreint, une sorte de dénominateur commun des pratiques nationales. C'est au contraire l'alignement sur le plus haut degré de protection. Cela est vrai, notamment dans ce domaine de la protection des droits de l'homme ou bien de l'application du droit humanitaire. Cette pratique nouvelle des juridictions internationales va très certainement connaître d'innombrables développements dans l'avenir, et l'on peut penser que assez vite, finalement, quand on considère l'accélération de l'évolution, assez rapidement, le dernier échelon de ce système international sera mis en place. Je veux dire par là le lien avec les juridictions internes. Il existe aujourd'hui au niveau européen, entre notamment les juridictions constitutionnelles et la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice des communautés. Mais dans un avenir très rapproché, le dialogue que j'évoquais tout à l'heure au niveau international se prolongera au niveau des juridictions nationales. Je parlais tout à l'heure de l'affaire Lagrand. Cela a été la confrontation directe de la Cour internationale de justice avec la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême a marqué dans cette affaire son indépendance et son refus, en réalité, de se soumettre à une décision prise par la Cour mondiale. Cela montre qu'il y a aujourd'hui encore un climat de confrontation, mais je suis persuadé que dans quelques années, le dialogue va s'élargir pour y introduire aussi les juridictions nationales. Les objets sur lesquels porte le droit international se sont aujourd'hui considérablement diversifiés. Il ne s'agit plus simplement de questions d'ordre politique ou de questions territoriales. Elles se sont multipliées et par conséquent, il y a d'immenses territoires communs sur lesquels ces différentes juridictions, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales, ont des choses à se dire, à comparer. Et tout cela contribuera effectivement à un processus général de globalisation du droit. Pour en terminer, parce que je crois que mon temps est à peu près écoulé, je voudrais dire que tout ce processus de mondialisation du droit, qui ne fait à l'évidence que s'engager, et qui, comme vous l'avez vu, est un phénomène purement juridique, tout ce processus n'existerait pas sans le progrès des moyens d'information et de la communication. Ce qui a été le vecteur de cette explosion, c'est en réalité l'Internet. L'Internet qui fait que le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme peut aisément, en pianotant sur un ordinateur, lire en quelques minutes les jugements du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Il y a cette masse d'informations diffusées par le net qui est un moyen concret d'assurer le développement du droit international. La manière dont nous pratiquons le droit international d'aujourd'hui repose essentiellement sur l'Internet. C'est dire que ce processus est bien marqué par le phénomène global de la mondialisation. Merci.
Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de votre exposé très clair. Permettez-moi de poser une question dans Candide. Nous avons vu cette année-ci se dérouler une guerre dite préventive. En ce moment-là, la diplomatie française a beaucoup lutté contre la réalisation de cette guerre unilatérale. Hélas, le résultat n'était pas très heureux. Mais en vous écoutant, je reprends encore l'espoir. Est-ce qu'un jour, le droit international peut empêcher ce genre de guerre préventive, d'autant plus que le fondement de cette guerre, c'est-à-dire l'existence d'armes massives, de destruction massive, sous la main de dictateurs, était peu fondé. Merci, monsieur.
Alors, je voudrais d'abord dire que vous semblez admettre sans espèce de discussion que l'opération menée par la coalition anglo-américaine en Irak serait contraire au droit international. Vous affirmez sans discussion. En êtes-vous sûr? Il y a bien entendu de très nombreuses personnes, et je suis le premier à le dire, qui affirme que l'opération n'est pas conforme au droit international. Je le pense, je l'ai écrit. C'est une violation au droit international. Ça n'est pas conforme au droit international. Mais il faut savoir que les États-Unis sont partis en guerre avec la conviction qu'ils respectaient le droit international. Ils l'ont affirmé. Ils ont soutenu, et je ne vais pas reprendre ici parce que ça nous mènerait trop loin, je ne vais pas développer leur argumentation, mais je regrette un peu que la presse ne se soit pas suffisamment fait l'avocat du diable et que l'on n'ait pas aussi rapporté la manière dont les États-Unis ont présenté les choses. Ça n'est pas si simple que de dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont avancé une interprétation qui n'est pas une interprétation correcte. J'en suis convaincu qu'il n'est pas une interprétation correcte de la résolution du Conseil de sécurité. Quoi qu'il en soit, c'est l'objet d'un débat juridique. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudrait laisser les choses. À la base, cette opération reposait dans l'esprit des États-Unis et des Britanniques sur l'application d'une succession de résolutions du Conseil de sécurité, une interprétation spécieuse, j'en conviens tout à fait, mais malgré tout, il y avait une argumentation juridique. Les États-Unis ne se sont pas situés hors du droit international, ou plutôt ont prétendu ne pas se situer. Ah, c'est une argumentation peut-être tordue, mais je voudrais vous signaler que la France a soutenu à peu près la même argumentation que les Britanniques et les Américains lorsqu'elle a participé à la zone d'exclusion aérienne dans les années 90. Je crois qu'il faut essayer d'avoir une approche un tout petit peu nuancée sur cette affaire. Bien entendu, nous pourrions souhaiter un renforcement du rôle du juge international sur ce type de questions. C'est possible. Par exemple, ici, il y avait une divergence d'interprétation de la résolution du Conseil de sécurité. Eh bien, le mieux, certainement, aurait été d'impliquer le juge international là-dedans. Mais est-ce vraiment nécessaire? Je crois que c'est avant tout un changement de mentalité. Et l'intérêt dans cette affaire, c'est d'avoir vu se dresser un très grand nombre d'États, dont notamment la France en tête, pour affirmer que le respect de la légalité était essentiel, et surtout d'une légalité que l'on pourrait qualifier de substantielle. Ce n'est pas simplement savoir s'il n'y a pas une autorisation implicite accordée par la résolution 1441, mais c'est aussi se dire que dans la charte, on prévoit que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours. C'est aussi dire que l'on ne peut pas avoir un usage déraisonnable de la force et que notamment il faut justifier devant le Conseil de sécurité ce que l'on veut faire. C'est donc bien plus ici une juridicisation, si vous voulez, de la pratique du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, et je pense qu'on va très rapidement aller dans cette direction, on ressent déjà cela à travers sa récente pratique, c'est une rationalisation de son action, c'est être conscient que la charte impose un certain nombre de règles de fond, qu'on ne peut pas donner un mandat sans savoir précisément pourquoi, et c'est là sans doute qu'il y aura une évolution. Quant à dire qu'il faut impliquer le juge international sur ce type de questions, c'est possible, bien entendu. Je signale qu'en 1999, la Cour internationale de justice a constaté que l'intervention de l'OTAN au Kosovo soulevait de graves questions sur sa légalité. Eh bien, là, il y a eu, vous le voyez, une petite intervention du juge international montrant au moins que cette question de la conformité au droit international de l'intervention au Kosovo se posait réellement. Donc, évidemment, si les opportunités se présentent, le juge international sera impliqué dans ce genre d'hypothèse. Il sera impliqué en fonction du degré de confiance que lui accorderont les États, y compris d'ailleurs pour ce type de problème, la confiance des États-Unis. Il va falloir donc acquérir la confiance des États-Unis pour obtenir ce type de résultat.
Comment contrecarrer la position américaine qui s'auto-exonère de l'application du droit international et refuse que ses citoyens, dont les militaires, puissent être assujettis à la Cour internationale de justice? Et deuxième question, dans une négociation contractuelle avec une entreprise états-unienne, quels arguments efficaces peut-on utiliser pour appliquer l'usage de la langue nationale, que ce soit le français ou une autre langue dans un autre pays, plutôt que l'anglais, dont on ne maîtrise pas toujours le sens?
La première question porte donc sur la Cour pénale internationale. Ce n'est pas la Cour internationale de justice, je vous le rappelle. La Cour pénale internationale, savons que les États-Unis ont une attitude très critique à l'égard de cette Cour. Comment contrecarrer? Mais je crois qu'il ne s'agit pas de contrecarrer les États-Unis. Il s'agit d'arriver à court ou moyen terme à les convaincre de l'intérêt d'y adhérer. Et je ne vois pas d'autre solution que de montrer aux États-Unis que la solution n'est pas dangereuse pour leur souveraineté et qu'il y a un très grand intérêt à assurer la promotion de cette Cour. Mais oui, tout de même, là encore, essayer de nuancer la situation s'agissant de la Cour pénale internationale. Je ne suis pas là pour défendre les États-Unis, mais tout de même, les États-Unis acceptent, et mon propos sera quelque peu cynique évidemment, accepteront très volontiers que la Cour pénale internationale exerce son activité, notamment en Afrique. Ils n'accepteront pas que leurs propres soldats soient soumis à la juridiction de la Cour. Je vous signale que la France a fait adopter à Rome une disposition qui, au moins temporairement, l'exonère aussi de la responsabilité de ses soldats, engagés notamment dans des opérations de maintien de la paix, de la juridiction de la Cour pénale internationale. Mais il faut parier, comme sur d'autres questions, je pense au protocole de Kyoto, je pense à la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, il faut parier sur une évolution de la pratique des États-Unis. Il est inutile aujourd'hui, je crois que c'est assez absurde, de diaboliser les États-Unis. Et c'est à la fois contre-productif et peut-être injuste et souvent injuste. Quoi qu'il en soit, on parlait tout à l'heure, on évoquait aujourd'hui la mondialisation, mais les États-Unis ont le sentiment d'être enserrés par une forme de mondialisation. Ils sont de plus en plus isolés. Songeons par exemple que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, que j'évoquais tout à l'heure, va bientôt bénéficier de l'appui considérable du Canada. Avec l'adhésion du Canada à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le continent américain qui sera d'une certaine façon ligué contre les États-Unis, non pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif, c'est-à-dire dans le sens de faire pression pour une évolution de l'état d'esprit des États-Unis. Là encore, je voudrais vous signaler qu'à la fin du mois de septembre, la Cour interaméricaine des droits de l'homme rendra un avis très important concernant le respect des droits de l'homme aux États-Unis à l'égard des travailleurs migrants en situation irrégulière, puisqu'on constate que les travailleurs migrants aux États-Unis sont effectivement souvent privés de leurs droits élémentaires parce qu'ils sont en situation irrégulière. Problème considérable pour le Mexique que le président Fox a soumis à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ce sera un événement important avec une très forte résonance aux États-Unis. Et c'est à travers cela, à travers l'affaire Lagrand sur la peine de mort, à travers cette affaire portée devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et c'est avec la pression amicale exercée encore et encore que progressivement, j'en suis persuadé, nous ferons évoluer les États-Unis, y compris sur le terrain de la Cour pénale internationale. Peut-être n'avez-vous pas vu la résistance très forte qu'il y a eu en France il y a quelques années lorsque le projet de Cour pénale a été lancé. Nous les avons surmontés et aujourd'hui, la France est un promoteur de la Cour pénale internationale. Les États-Unis y viendront aussi lorsqu'ils auront modifié profondément, certes, leur regard à l'égard du droit international et à l'égard de cette autre mondialisation, la mondialisation du droit, des droits de l'homme, des droits humanitaires, qui aujourd'hui les met dans une situation de pression. Ah, la question sur la langue. Question sur la langue. Alors, là, je dois dire que c'est une question qui ne relève pas de mon ressort. Il n'y a pas de règle de droit international. C'est une question qui relève pour l'essentiel du droit national des États et non pas du droit international public. Je peux difficilement vous apporter une réponse.
Philippe Weckel.
Étant entendu que c'est bien entendu au niveau national que la compétence s'exerce sur ce type de questions.
Merci beaucoup, Philippe Weckel.